on est tous capables de bien jouer. Enfin, ouais. Qu'est-ce que c'est bien jouer finalement? Mais si, même si l'on parle des 12 finalistes, mais je pense que même les candidats de première épreuve, voilà, tout le monde joue très bien. Mais ce qui est différent, c'est d'arriver à donner le meilleur de soi-même à un instant précis.
Bonjour. Le podcast des petits papiers, ce sont des mots inscrits sur des papiers et un invité pour les commenter et se raconter. Participer au concours Reine Elisabeth, c'était un rêve d'enfant et il l'a réalisé jusqu'à la finale où il décroche le 3e prix. C'est tout a commencé vers l'âge de 6 ans. C'est là qu'il commence la musique. Ses parents l'inscrivent au pré-solfège parce qu'il entend chanter tout le temps. Son premier instrument sera le violon jusqu'à ce qu'il remarque que leur fils reproduit les musiques qu'il entend à l'oreille sur le clavier de sa sœur. Il a 8 ans et le piano débarque ainsi dans sa vie. Des cours privés d'abord, le conservatoire ensuite, un bac de 3 ans plié en deux au conservatoire de Liège, un master à Cologne dont il sort avec la plus grande distinction, un apprentissage qui se poursuit en Italie en résidence à la chapelle Reine Elisabeth et à 27 ans, l'accès au prestigieux concours. Bonjour Valère Burnon.
Bonjour.
Bravo d'abord parce que vous avez fini 3e de ce concours Reine Elisabeth Piano cette année.
Merci beaucoup.
Comment est-ce qu'on redescend quelques jours après? On est là à peu près 3 semaines après.
Mais voilà, il a fallu du temps pour redescendre, c'est vrai. Ouais. Surtout qu'à la suite du concours, il y a évidemment toute une série de concerts qui s'enchaînent avant qu'on ait même le temps de réfléchir. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de souffler un peu.
C'est peut-être pas encore d'ailleurs redescendu, surtout quand on a mis aussi longtemps pour monter, hein, puisque vous avez presque. J'ai presque envie de dire que depuis que vous êtes enfant, vous travaillez pour accéder à ce concours.
Oui, indirectement, je pense que c'était sans doute dans ma ligne de mire, mais je pense que je ne préparais pas ce concours-là.
Non, bien sûr.
Mais ça a toujours été dans un coin de ma tête, c'est certain, oui, en effet.
Alors, votre premier instrument, effectivement, c'est le violon. Le violon que vous n'achetez pas pour faire du piano, hein, puisque vous avez continué le violon en parallèle. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que vous êtes assistant au Conservatoire de Liège en musique de chambre. Mm-hmm. Donc, cet instrument-là garde aussi une place dans votre vie?
Oui, je pense que en plus c'est évidemment enrichissant lorsque l'on connaît un second instrument, donc pour pouvoir enrichir la pratique musicale pianistique avec justement une approche peut-être plus violonistique, donc un instrument à cordes, donc qui a un legato très intense, donc j'essaye évidemment d'appliquer ça également au piano, un instrument qui pourtant est plus percussif, est quelque chose de, voilà, lorsque une note est jouée, le son décroît inexorablement, mais bon voilà, avec certaines technique et surtout aussi avec l'appui de mes maîtres en résidence, donc Franck Bralet notamment, qui met l'accent énormément là-dessus.
Voilà, pianiste français.
Voilà, c'est ça. Ouais. De travailler dans cette direction-là, d'avoir un jeu très orchestral. Donc évidemment, le fait d'avoir fait du violon, c'est un atout. Oui.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans le piano? Peut-être le fait aussi que le piano, quand on est seul et qu'on apprend, on sait que le violon, c'est quelque chose qui est parfois difficile au début, avant d'arriver à quelque chose qui fasse du bien, c'est pas toujours évident, tandis que le piano, ça a été plus immédiat.
Sans doute, oui. Bon, je pense aussi que je dévorais énormément de partitions quand j'étais jeune. Je lisais tout ce que je voyais, parce que j'adorais énormément Chopin. Et donc, je lisais toutes les partitions de Chopin. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a vraiment plu, c'est le fait de pouvoir vraiment avoir un rendu presque immédiat en réalité. Donc je lisais très vite, enfin, je lis toujours très vite en général, mais c'est le fait de pouvoir avoir directement le rendu fini. Au violon, il y a énormément de problèmes de son, ce genre de choses, et on est toujours aussi dépendant d'un second instrument, un piano, pour nous accompagner, ce genre de choses. Donc je pense que c'est cette facilité d'accès au premier égard qui m'a plu, oui.
Valère Burnon, qu'est-ce que vous reproduisiez à l'oreille quand vous étiez petit et que vos parents ont compris que vous aviez peut-être un talent pour le piano quand vous étiez sur le clavier de votre sœur? C'était quoi que vous reproduisiez?
Alors, je faisais déjà de la chorale à l'époque, donc oui. Toutes les mélodies que j'apprenais à la chorale, je les rejouais directement sur le piano. Je pense qu'il devait aussi y avoir les choristes qui passaient par là, donc énormément
films,
de musiques différentes. Oui.
Ouais, ouais. Pas encore du classique à ce moment-là quand même.
Pas encore, mais c'est assez vite arrivé finalement. Ouais.
On va essayer de revenir sur votre parcours, on va essayer de comprendre ce qui vous anime comme artiste à travers des petits papiers. Ils sont devant vous, dessus il y a des mots, je vous propose vous en prenez un, vous regardez ce qu'il y a dessus et puis on voit ce que ça raconte.
C'est marqué contexte. Je vais essayer de dire ce qui me passe par la tête.
Oui, c'est le principe. Après, je vous aiderai.
C'est vrai que la musique est aussi une histoire de contexte. Et donc, pour moi, qui ne viens pas forcément d'un contexte musical à la base...
Oui, dans votre famille, il n'y avait pas de musicien, on n'était pas artiste.
Pas du tout. Donc, c'est vrai que ce concept-là n'était pas... Voilà, j'étais pas très prédisposé à faire de la musique. Et donc,
Est-ce qu'on peut dire, Valère Burnon, ils font quoi, vos parents? Ils faisaient quoi?
Alors, mon père est architecte, donc il y a quand même un peu d'art quand même.
Une sensibilité,
oui. Et ma maman tient des chambres d'hôtes à la maison.
Donc, d'accord.
Pas du tout quelque chose de musical. Et même dans ma famille plus élargie, personne ne fait vraiment de la musique. Donc c'est vrai que le contexte n'était pas forcément prédisposant. Je ne sais pas si ça se dit.
Mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous ayez attrapé cette petite grâce qui passait, qui a fait de vous un musicien?
Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, je pense. Et donc, je pense qu'en jouant de la musique, cela me permet d'évoquer des choses que je ne sais peut-être pas évoquer avec des mots.
Oui.
Et je pense que dès le plus jeune âge, j'étais content d'avoir parfois cet exutoire, en fait, de me plonger directement dans la musique et d'oublier tous les soucis qu'il peut y avoir sur le côté. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup plu. Ça me permet vraiment de me mettre dans ma bulle et de ne penser qu'à la musique tout à coup. Et donc, c'est comme si tout le reste était beaucoup plus simple. Et oui, je pense que c'est ça. Et évidemment, je pense que j'ai aussi... j'avais des facilités physiques, j'en ai toujours. Mais bon, évidemment, elles sont couplées à pas mal d'autres choses. Mais je pense qu'à la base, voilà, je sens que j'avais des facilités pour la musique.
C'est quoi des facilités physiques pour faire de la musique?
Je pense que j'avais des doigts qui...
Ouais.
Une agilité assez importante. Et donc, tout me paraissait si simple, en réalité. Hein, lorsque, comme je disais, donc je dévorais énormément de partitions de Chopin et j'arrivais au cours en ayant à peine lu la pièce. Et ça sidérait toujours mon professeur à l'époque, à la vitesse à laquelle j'assimilais des pièces. Et puis, je pense que j'ai toujours aussi eu énormément de curiosité. J'ai toujours adoré découvrir de nouvelles pièces. Je pense que c'est ça qui fait que, petit à petit, j'ai commencé à découvrir énormément d'aspects. Oui.
Le concours Reine-Élisabeth, il a ceci de particulier, qu'il place les musiciens une semaine en isolement, on peut dire ça, puisque vous êtes une semaine dans la chapelle Reine-Élisabeth, sans contact avec l'extérieur, sans téléphone, sans internet, pour découvrir l'œuvre inédite qui sera l'œuvre de la finale. Comment est-ce qu'on vit cet isolement-là?
Alors finalement, l'isolement a été une bonne chose parce que ça nous a permis vraiment à tous les 12 finalistes de nous reconcentrer vraiment sur ce qui importe. Pendant le concours, il y a énormément de choses qui se disent, que ce soit le public, que ce soit les médias, que ce soit les personnes que l'on connaît, des choses positives, des choses moins positives. Et donc finalement, le fait d'être coupé un peu du monde à la chapelle, ça nous a permis vraiment de nous reconcentrer sur la musique et de ne pas prêter attention à tout ce qui se dit, à se dire en fait simplement... il faut que je joue, que je prenne du plaisir à jouer, c'est ça qui est le plus important. Alors évidemment, le fait d'être confronté à une pièce comme ça, en étant complètement coupé du monde, ça peut parfois faire peur. Mais je pense qu'on a eu de la chance aussi cette année-ci avec la pièce écrite par Chris de Fort, qui était une pièce qui était très abordable, non seulement quand on l'écoute et quand on a un premier coup d'œil dans la partition, mais aussi quand on la travaille.
Pourquoi vous dites que ça peut faire peur? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu nulle part et qu'on va devoir se débrouiller tout seul avec?
Oui, mais ça, de toute façon, on y est déjà habitué. Oui. En général, en concours, on doit faire des créations. Il y a toujours une pièce, en général, mais c'est déjà le cas au concours Reine-Élisabeth en demi-finale.
En demi-finale, c'est
vrai. On a toujours une pièce imposée que l'on a quelques mois à apprendre. Mais là, c'est
le délai, c'est pas le même, c'est une semaine et quelques mois.
Et qui peut parfois faire peur, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, finalement.
Oui.
Je sais que, voilà, parfois, certaines années, les pièces sont peut-être un peu moins faciles à aborder. Et donc, il y a eu déjà des anecdotes où les candidats avaient beaucoup de mal, et donc il fallait demander au compositeur un peu d'aide. Je pense que cette fois-ci, ça a été beaucoup plus clair, et donc on a eu beaucoup de chance. Et aussi, je pense, la chance aussi, c'est le fait d'avoir eu... Je trouve une pièce très agréable aussi et qui raconte quelque chose de vraiment intéressant avec des couleurs, une orchestration agréable. Donc ça m'a beaucoup plu directement.
Est-ce qu'on en parle entre finalistes de la pièce sur laquelle on travaille, Valère Burnon, dans la chapelle, oui?
Oui, bien sûr. Et donc moi je suis arrivé le mardi, donc je suis arrivé assez tôt dans la semaine. Et donc, de voir ces candidats qui arrivent, deux candidats par jour, qui découvrent tout à coup la pièce, alors que nous, ça fait plusieurs jours qu'on la travaille. Évidemment, on a parfois envie de les aider et de dire, voilà, moi, je fais plutôt comme ça parce que c'est plus facile, ce genre de choses. Et oui, je pense qu'il y avait de toute façon une grande entraide entre les 12 candidats. Et ça, je pense que ça a toujours été le cas. Il y a toujours cette... cette retraite à la chapelle où finalement il y a une bonne ambiance. Et ça se voit notamment lors de la proclamation où je pense que tout le monde est content pour tout le monde. Et évidemment, tout le monde a envie d'avoir cette première place, mais je pense qu'on est tous déjà lauréat du concours. Donc,
en étant en finale, comment est-ce qu'on sort de cette... Quand vous sortez de la chapelle, c'est le jour de la finale, donc vous jouez. Comment est-ce qu'on sort de cette prestation et comment on revient dans le brouhaha, finalement, hein, dans la vraie vie?
Car vraiment, on revient dans un fameux brouhaha. Non seulement, voilà, évidemment, devant une grande salle parfaitement remplie et très chaleureuse, mais aussi en rentrant, on rallume le téléphone et on reçoit des centaines et des centaines de messages. Alors évidemment, c'est très agréable parce que ce sont des messages bienveillants, mais oui, c'est vrai que le retour à la réalité, il est direct. Mais voilà, j'étais quand même ravi. Et puis je pense aussi, ça a beaucoup aidé, d'être déjà content aussi de ma prestation en finale. J'ai livré la prestation que j'avais envie de livrer, donc l'objectif était atteint et donc voilà, j'étais très content, oui.
Valère, avant de commencer à jouer, il y a quelques longues secondes, où vous fermez les yeux et vous vous concentrez dans un silence absolu. À quoi vous pensez à ce moment-là?
Pendant la finale, c'était particulier, car finalement, j'étais bizarrement calme. C'est un moment que je me suis toujours imaginé en tête, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, si jamais vraiment j'allais vivre ce moment. Et en entrant sur scène pour la pièce imposée, je me sentais très calme. Et ça fait finalement écho aussi au premier tour, où je commençais ma prestation par un Nocturne de forêt. J'avais misé sur cette pièce-là parce que je savais que ça allait me faire progressivement rentrer dans la prestation. Et aussi, ça allait me calmer, parce que je sais que les premiers tours sont toujours très, très anxiogènes et procurent énormément de stress. Donc j'avais envie d'avoir ce genre de pièce pour créer quelque chose et commencer à raconter une histoire. Finalement, cette pièce imposée commence exactement de la même manière. Donc, c'est un long solo piano, mais qui commence... Voilà, on a l'impression que je commence à raconter une histoire. Et donc, je pense que ces premières secondes, c'était juste pour attendre le calme. Parce qu'évidemment, quand il y a 1500 personnes dans une même pièce, voilà, on entend toujours du son et des bruits par-ci par-là. Pour commencer à créer une ambiance et pour pouvoir prendre la parole petit à petit, je pense que c'est important d'avoir ces moments de calme pour que finalement la musique puisse émerger justement du néant. Donc.
Ça veut dire, Valère Burnon, que le mental a aussi son rôle à jouer dans un événement comme celui-là?
Clairement, oui, ouais. En effet. Je pense qu'on est tous capables de bien jouer. Enfin, ouais. Qu'est-ce que c'est bien jouer finalement? Mais même si l'on parle des 12 finalistes, mais je pense que même les candidats de première épreuve, voilà, tout le monde joue très bien. Mais ce qui est différent, c'est d'arriver à donner le meilleur de soi-même à un instant précis. C'est ça qui est parfois difficile. Ouais. Parce que, voilà, évidemment, il y a des passages que j'ai répétés des centaines de fois chez moi. Mais le faire ces centaines de fois chez moi, ça, c'est pas important. C'est de pouvoir le faire de la meilleure manière possible sur scène.
Oui.
Évidemment, il y a un grand côté mental derrière parce que tout à coup, on commence à douter. On se dit, oui, mais j'ai peut-être pas assez travaillé. Et puis voilà, donc évidemment que le côté mental est important. C'est comme un sportif finalement qui arrive aux Jeux Olympiques, qui est l'endroit où il a toujours envie de performer et puis où il doit être capable finalement de performer de la manière dont il veut. Oui.
Vous m'offrez une transition de luxe puisque je voulais vous faire écouter un sportif justement. Je vais vous faire écouter un son. C'est Henri Lecomte, le tennisman qui est passé dans cette émission l'année dernière. Henri Lecomte, en 1988, il est sur le cours de Roland-Garros. Vous n'étiez pas né, Valère. Face à Matt Wilander, c'est une finale hyper importante. Et en fait, il va perdre cette finale. Et on va écouter ce qu'il dit justement de la manière dont on gère ses émotions dans des événements comme cela.
Gérer ses émotions, ça veut dire que lorsqu'on a un événement qui est tellement important, par exemple ma finale de Coupe de Roland-Garros en 88, c'est de déjà être dedans, de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Les bons côtés, les mauvais côtés, et donc on est prêt à les affronter. Lorsqu'on n'est pas prêt, au bout d'un moment, vous avez une telle pression que vous passez par des différentes... stade de votre vie, dans les moments où vous voyez gagner, vous voyez perdre, vous voyez jouer très mal, vous voyez le public contre vous, vous visualisez un petit peu ce qui peut se passer. Donc ça s'apprend.
Vous avez l'impression que cette finale de Roland-Garros, vous n'avez pas su gérer vos émotions?
Ah bah bien sûr, ouais. Bien sûr, j'en suis conscient, puisque la veille, j'ai joué 15-20 fois, j'ai pas très bien dormi, donc ça puise dans vos réserves. Vous venez de faire 6 matchs incroyables à Roland-Garros, faut gagner le 7e. Vous sentez que le public, la presse, tout le monde veut que vous gagniez. Mais en fin de compte, au lieu de le prendre positivement, vous le prenez négativement. Ça veut dire que c'est encore une chape de plomb qui vous tombe sur la tête et vous dites, mais si jamais je perds, et si jamais je fais ci, et si jamais je fais ça, et bien là, ça commence à être difficile et ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui, au plus grand. Et moi, c'est arrivé ce jour-là.
Henri Lecomte, donc tennisman français, Valère Burnon, notre invité finaliste du concours Reine-Elisabeth cette année. Je vous voyais acquiescer en écoutant Henri Lecomte. Ça ressemble fort finalement à ce que vous avez vécu. Sauf que vous, vous n'avez pas perdu le contrôle. Mais,
Oui, évidemment. C'est également l'enjeu de. Ça a été également l'enjeu de ces derniers mois. Je pense qu'en musique, enfin, pour ma part en tout cas, la préparation est un élément absolument important. Je ne voulais certainement pas arriver au concours en ayant des doutes sur la manière dont je me suis préparé. C'est pourquoi j'ai pris vraiment les devants le plus tôt possible, dès février 2024, lorsque les pièces imposées et surtout la liste de programmes à jouer a été publiée. Dès ce moment-là, j'ai voulu prendre les choses en main en me disant « Ok, je vais choisir savamment mon programme ». Pour savoir miser sur mes qualités et aussi, ce n'est pas la première fois à laquelle je participe à un concours.
Oui, il y en a eu d'autres, vous en avez gagné d'autres.
Je sais par quel état on peut passer mentalement avant de monter sur scène. Et donc, pour essayer de minimiser justement cette panique qui parfois peut arriver et qui peut parfois être aussi cause de tétanie, ça n'est jamais arrivé heureusement. Mais voilà, je sais que ça pourrait arriver. Donc, j'avais justement envie de mettre toutes les chances de mon côté en me préparant de la meilleure manière possible. D'autant que je pense que. Bon, on était deux Belges, mais je savais que les Belges ont...
Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Belges aussi en finale.
Donc, la préparation est absolument vitale. Et aussi, non seulement donc, la préparation à long terme, mais la préparation à plus court terme. Donc, dans les semaines qui précèdent le concours, je répétais énormément. Et je mettais toutes les chances de mon côté. Parce que sinon, je sais que quand on arrive à quelques doutes, alors les doutes s'installent. Et quand on arrive sur scène, alors on a l'impression de ne plus savoir jouer et d'être complètement dépité. Ce sont pas des moments très agréables sur scène, donc j'avais vraiment envie d'éviter cela.
Oui, oui.
Et il y avait aussi la grande question, c'était comment gérer aussi toute l'attention que ça allait créer finalement, donc l'attention médiatique, mais aussi l'attention de toutes les personnes que je connais, qui allaient évidemment me suivre. Et heureusement, à ce niveau-là, je trouve que ça m'a toujours été plutôt positif, c'est plutôt porteur finalement de voir toutes ces personnes que l'on connaît depuis si longtemps qui nous encouragent.
Et
donc ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, donc je pense aussi que j'ai aussi eu des conseils par-ci par-là, parce que malheureusement, au niveau mental, on n'est pas souvent aidé en musique. Je pense que c'est un peu plus tabou qu'en sport, par exemple.
Oui, en sport, il y a des coachs.
Oui, voilà, c'est ça. Mais en musique, c'est un peu plus rare. Mais bon, voilà, j'ai des amis qui se sont un peu penchés sur la question, qui ont lu pas mal de choses, donc ils m'ont conseillé quelques techniques, peut-être parfois de visualisation notamment. Donc le tennisman en parlait, donc la visualisation, de voir non seulement si ça se passe bien, mais aussi de voir...
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer,
ça, exactement, en fait. Et donc d'essayer d'imaginer chaque scénario. Donc ça a été aussi
ça aurait été quoi, Valère Burnon, le pire scénario pour vous? Le pire cauchemar que vous avez peut-être fait d'ailleurs, la nuit
Alors ce qui me terrorisait un peu avant le premier tour, c'était mon étude de Ligeti, qui était pourtant une étude que j'avais beaucoup jouée en concours et qui a toujours été payante. Mais c'est finalement une pièce sur laquelle on a très peu de contrôle, parce qu'en réalité, ça va tellement vite, il y a tellement de notes qu'à un moment donné, on est obligé d'être en mode pilotage automatique et de faire confiance à son corps en réalité.
Ouais.
Les doigts qui courent tout seuls sur le clavier, et si on commence à se dire « Ah, qu'est-ce qu'il y a après ?» Alors du coup, on cherche et directement, on se plante. Et donc, je savais qu'il fallait avoir un lâcher-prise assez difficile à avoir dans un moment où on a envie de tout contrôler sur scène. Et donc, même si ça avait toujours été très, très, très payant en concours jusqu'à présent, ça me faisait vraiment stresser, je trouve, avant cette première épreuve. Et puis finalement, je ne l'ai pas joué, donc c'était du Ligeti. Alors, elle aurait peut-être très, très, très bien, finalement, hein, mais finalement, ça m'a enlevé un certain stress, de devoir la jouer. Et c'est dommage d'un autre côté, parce que finalement, c'était aussi quand même une arme, parce que c'est évidemment une pièce monstrueusement compliquée, et donc je savais que si je la jouais correctement, c'était... Voilà, en général, c'était ça qui m'avait fait passer, en tout cas, pas mal de premiers tours dans mes précédents concours. Mais voilà, il fallait évidemment bien la jouer. Mais ça me faisait... J'avais beaucoup d'anxiété à cause de cette pièce-là. Oui.
Valère Burnon est notre invité aujourd'hui. Je vous ai vieilli tout à l'heure au début de l'émission. J'ai dit que vous aviez 27 ans, vous en avez 26 seulement.
Oui, en effet.
Ouais, voilà, 26 ans, finaliste du concours Reine-Elisabeth cette année, troisième au concours Reine-Elisabeth, et puis aussi prix du public Musique 3.
En effet, donc ça me permet de rejouer sur cette magnifique scène de Flaget dans le Studio 4, donc le 27 juin. Donc je suis très content.
Oui. Effectivement, vous serez le 27 juin à Flaget à 19h dans le cadre du festival Musique 3. Et puis le prix du public, c'est aussi finalement la plus belle récompense pour un musicien, pour quelqu'un qui monte sur scène.
Oui, et surtout pour un musicien belge qui fait un concours en Belgique. Ouais. Donc c'est chouette aussi de voir... Parce que non seulement le prix Musique 3, mais aussi le prix VRT, donc de voir que finalement toute la Belgique, peu importe que l'on soit wallon, flamand, m'ont soutenu. Et donc, oui, j'étais ravi évidemment d'avoir ces deux prix du public.
Chaque podcast des Petits Papiers est une rencontre différente. Il y a de nombreux invités à découvrir. Suivez-nous et puis abonnez-vous si ça vous dit. On y parle musique, cinéma, littérature, bande dessinée, théâtre, photo et plein d'autres choses. Vous trouverez certainement votre bonheur dans l'une ou l'autre rencontre.
Grandir. Oui, grandir. Mais oui, mais c'est certain que quand on grandit avec la musique, voilà, il faut aussi... arriver à gérer tout cela et aussi surtout à grandir aussi musicalement, parce qu'on nous demande toujours d'être très mature dans nos interprétations, surtout quand on joue des pièces extrêmement profondes, comme parfois des sonates de Beethoven ou des sonates des dernières sonates de Schubert. Oui, c'est évidemment important, et avec l'âge, je pense qu'on atteint aussi une maturité non seulement dans la vie, mais alors on insuffle cette maturité dans la musique, et je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est qu'en grandissant, finalement, je redécouvrirai toujours les œuvres que je connais, pourtant. Donc, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup joué la fantaisie de Schumann, notamment ces dernières années, parce que, voilà, c'est une pièce que j'ai notamment programmée au concours Reine-Elisabeth. Et à chaque fois que je l'ai reprise, je la vois différemment.
Ah
donc,
ouais.
Je suppose que ça, c'est quelque chose qui va m'arriver toute ma vie, et peut-être que dans 20 ans, quand je relirai cette pièce, je me dirai « Ah !» Ça, c'est une émotion que je n'avais pas encore quand j'avais 20 ans.
Mais voilà, j'allais dire, l'émotion, elle dépend aussi du moment où on se met devant son piano. J'imagine que même si aujourd'hui vous jouez une pièce et demain la même pièce, peut-être qu'elle aura une couleur différente.
Certainement, oui. Mais en fonction du vécu aussi, voilà, dans 20 ans, j'aurais vécu beaucoup plus d'expériences positives, négatives que maintenant. Donc, fatalement, tout cela, ça se ressentira dans ma musique et... Il faut grandir en musique, de toute façon.
Oui, vous dites que les concours, c'est vraiment une opportunité pour grandir musicalement. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense, oui. Parce que ça nous force à aller encore au-delà de nos limites, en fait. Lorsqu'on se prépare pour un grand concert, voilà, on a envie de jouer correctement, de livrer une prestation. Mais quand on participe à un concours, on a envie d'être la meilleure version de soi-même, en fait. Je pense que ce n'est pas un bon calcul de se dire qu'il faille être le meilleur, parce qu'on est tous si différents musicalement que quelqu'un joue d'une manière, quelqu'un d'une autre.
C'est finalement... La manière dont c'est reçu est subjective, en fonction du vécu de la personne en face.
Voilà, exactement. Maintenant, il faut avoir une personnalité quand même assez intéressante, essayer de raconter des histoires. Mais il faut certainement aussi aller au bout de nos limites et toujours... se remettre en question. Et donc, évidemment, quand on fait un boulot aussi intense, ça nous fait grandir, finalement, musicalement. Je sais que c'est toujours la consolation que l'on a quand on participe à un concours et que malheureusement, on est éliminé au premier tour, au second tour, voire en demi-finale. C'est de se dire que finalement, on a grandi musicalement et tout ce boulot-là qu'on a fourni pour le concours, il n'est pas perdu. Parce que, évidemment...
Ça, c'est voir le verre à moitié plein. C'est une bonne solution, parce que c'est décevant aussi, j'imagine.
Oui, c'est décevant. Et puis, voilà, parfois, un concours de musique reste un concours de musique. Donc, ça reste quelque chose de subjectif. Alors, évidemment, il y a parfois des moments où on peut se dire « Non, je comprends parce que j'ai pas bien joué ce moment-là, parce que ce genre de choses. » Mais parfois, voilà, ça m'est arrivé parfois, pour moi, de livrer des bonnes prestations et de ne pas être... sélectionné pour aller en finale et de me dire mais pourquoi. Et en fait, en allant voir les membres du jury, c'est simplement que c'était pas de leur goût, mais c'était pas forcément mauvais, mais c'était juste que ça ne leur avait pas plu. Mais donc parfois, on a beau se remettre en question ce genre de choses, parfois il y a simplement la pièce qui est pas tombée du bon côté aussi. Donc c'est ça. Et donc je pense que ce genre d'expérience nous fait grandir aussi.
Oui. Valère Burnon, à propos de grandir et de continuer à grandir musicalement, en 2018, vous disiez que ça vous plairait d'apprendre l'écriture musicale et même la direction d'orchestre. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, ben ça c'est mon côté curieux qui reprend le dessus. Voilà, j'avais une professeure de musique, d'écriture musicale au Conservatoire Royal de Liège qui m'avait beaucoup intéressé et qui m'a fait découvrir énormément de choses. Et je pense que finalement, quand on est interprète, c'est intéressant et important de comprendre la manière dont les pièces sont composées pour pouvoir finalement nous faire le travail inverse, essayer de créer notre histoire à partir de cette structure. Et donc, oui, j'ai toujours adoré évidemment aller gratter un peu dans l'écriture, voir un peu comment Bach écrit les fugues qu'il a composées, voir un peu chez Chopin la manière dont il écrit pour le piano. Un peu, voilà, chaque compositeur a sa manière d'écrire.
Mais est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous composez?
Alors j'essaye, malheureusement, ça prend énormément de temps, et puis je suis un peu trop perfectionniste, alors j'ai toujours l'impression que ce que j'écris n'est pas bon, mais... J'espère un jour pouvoir enfin publier et terminer surtout d'abord une sonate que j'ai commencé à composer il y a quelques années. Mais voilà, il faudra encore un peu de temps et il va falloir encore un peu grandir pour,
pour y arriver.
Pour y arriver, voilà. Et donc la direction d'orchestre aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours aimé évidemment la musique orchestrale. Je pense que même quand j'écoute de la musique dans le train ou même chez moi, j'écoute quasiment que de la musique orchestrale. Et donc, oui, pourquoi pas.
Vous n'écoutez jamais de musique pop ou du rock ou des chansons ou, jamais?
Non, sais que je devrais aussi m'y intéresser. Mais,
rien ne vous oblige. Hein,
même Franck Bralet me dit que je devrais aussi élargir mon spectre de musique. Mais bon, voilà, je trouve qu'il y a déjà tellement de choses à écouter dans simplement la musique classique au sens large que voilà, je n'ai pas le temps pour le reste.
Donc si je vous demandais de choisir une chanson, là, ce serait compliqué.
Bon, oui, ce serait vraiment difficile. Oui.
Bon, on va pas faire ça, on va pas faire ça.
Détermination. Ça, c'est certain qu'il en faut. Surtout pour un concours, déjà. Parce que pour arriver à survivre, finalement, dans cet océan de pression, parfois, et réussir à donner le meilleur de soi-même, simplement sur une scène... C'est quand même un endroit très, très difficile, hein, quand même. On est épiés, tout le monde nous regarde et finalement on se dit, si on fait un pas de travers, tout le monde va l'entendre. Et, il faut arriver à avoir beaucoup de lâcher prise, mais je pense que pour la préparation, et donc, oui, il en faut la détermination. Il y a toujours aussi ce moment, avant de monter sur scène, surtout en situation de concours, je trouve, où on se dit toujours, mais pourquoi je fais ça finalement, hein? On est toujours très... comment dire, enjoué lorsque l'on s'inscrit au concours, on se dit « Ah oui, ça va être chouette, ça va être un bon moment ». Et puis il y a toujours ce moment où on est complètement stressé, ou parfois le matin même, où on a vraiment cette tension qui monte et qui monte, et on se dit « Mais pourquoi se mettre en danger comme ça ?»
Est-ce que vous vous dites à ce moment-là que cette fois, c'est la dernière fois?
Alors j'espère que pour ce concours-ci, oui, j'espère que ce sera la dernière fois. Oui, évidemment, il faut énormément de détermination et de remise en question aussi pour arriver finalement à donner le meilleur de soi-même à ces moments-là. Il faut essayer de voir aussi le stress comme quelque chose de porteur finalement. Ça nous permet d'aller au-delà de nos capacités, ça nous permet de nous dépasser. Le meilleur moyen finalement de ne pas stresser, c'est justement d'accepter le stress et de ne pas le repousser. Quand on le repousse, on fait un déni et rien ne se passe bien. Mais quand on accepte le stress et qu'on se dit que finalement c'est une sensation et une émotion complètement normale, et qu'il faut simplement arriver à la canaliser. Alors du coup, on arrive à encore se surpasser sur scène.
On parlait de direction d'orchestre. Vous connaissez Zaya Ziwani, je suppose, la chef d'orchestre française. On va écouter ce qu'elle dit justement de son parcours. Et je pense que ça va vous parler aussi.
Je dois dire que c'est cette exigence qui m'a toujours guidée. Alors c'est vrai que je dois dire, parfois je trouvais que c'était un peu dur d'être toujours soumis à cette exigence-là et que parfois mes parents, ils ne nous laissaient pas toujours beaucoup de répit. Et en même temps, je dois dire que le fait de ne pas avoir lâché, comme par la suite, en fait, j'ai jamais lâché, c'est ça qui m'a, en fait, qui m'a construite, qui m'a montré que si on voulait arriver à obtenir des résultats, si on voulait réussir ses rêves, il fallait travailler. Et en fait, aujourd'hui, je crois que mon métier, le métier de chef d'orchestre, c'est aussi un métier qui est très, très exigeant parce que quand je monte sur scène, je n'ai pas le droit à l'erreur. Alors, tout à l'heure, vous citiez la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. En effet, si on n'est pas soumis à cette exigence-là tout le temps et à se dire, de toute façon, on n'a pas de choix que d'être parfait ce jour-là. eh ben, il faut travailler, il faut être préparé à ça. Et donc, moi, ça fait des années que mon métier fait que quand je monte sur scène, je n'ai pas le droit de me tromper. Mm-hmm. Je ne peux pas me tromper.
Zaya Ziwani, chef d'orchestre française. Valère Burnon, ça vous parle aussi, j'imagine, ça ?
Oui, c'est vrai, en effet. Ouais. Je pense que l'importance du travail, parce que, évidemment, je parlais tout à l'heure de facilité, je ne serais jamais arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui si je n'avais pas eu cette détermination et ce travail acharné.
Oui, parce que ce qu'on doit dire, c'est que vous avez commencé donc vers 6 ans, je pense, la musique. Mm-hmm. Vous n'avez jamais arrêté et je pense que ça a occupé 100% de vos temps hors école, peut-être de mm-hmm. votre temps libre. Toute votre enfance, toute votre adolescence, il n'y avait pas de la place pour grand-chose d'autre. Donc, il faut vraiment en vouloir.
C'est ça. Donc, la passion, évidemment, est importante, mais il faut avoir aussi la détermination de vivre de sa passion. Et donc, oui, c'est certain que j'ai passé des heures et des heures à travailler, mais finalement, ce sont des heures parfois de plaisir aussi. Hein. Ce n'est pas que du travail acharné. Voilà, on peut avoir aussi le plaisir de travailler et de découvrir toutes les petites parties de chaque pièce, essayer d'aller voir chaque motif et analyser et aller toujours de plus en plus en profondeur. Et je pense, oui, on a un niveau d'exigence qui est important. Et justement, maintenant, les enjeux des prochaines années, ça va être de garder cette exigence. J'ai réussi à arriver à un niveau...
À monter un palier. Voilà. Ouais.
Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de rester sur ce palier. Donc, ça aussi, ça va être... Il va falloir énormément de travail et énormément de détermination pour cela. Oui.
Vers quel palier suivant vous regardez là ?
Alors, je pense que maintenant, grâce au concours, je vais avoir quand même beaucoup de concerts en Belgique, de toute façon. La Belgique a énormément de... Voilà, dans sa programmation, prête énormément d'attention au concours. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment de soucis à me faire. Mais pour l'étranger, il faudrait essayer d'arriver à percer à l'étranger, essayer de surfer sur cette vague du concours, sur cette vague de notoriété pour essayer de percer à l'étranger, d'aller jouer sur les grandes scènes internationales. Oui.
Est-ce que les réseaux sociaux, ça a de l'importance dans votre métier de pianiste, Valère Burnon, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, oui, je pense que ça a vraiment énormément d'importance. Alors malheureusement, on n'est pas tous, on n'est pas tous capables de percer sur les réseaux sociaux. J'essaie de faire ce que je peux, par exemple. Ouais. J'essaie donc de tenir à jour mon site internet, ce genre de choses. J'essaie de publier régulièrement les concerts que je donne.
Ouais, ça c'est sur internet,
mais sur les réseaux sociaux.
Oui, sur les réseaux sociaux.
Et donc
sur Facebook,
Instagram. Mais voilà, évidemment, ça prend énormément de temps et c'est pas censé être notre métier.
Et mais... c'est une nature aussi. Il y a des gens qui aiment ça. Il y en a d'autres pour qui c'est une corvée.
C'est ça. Donc j'essaye de...
Vous êtes plus du côté de la corvée, j'ai l'impression. Ou en tout cas entre les deux.
Entre les deux. Mais évidemment que je préférerais passer du temps sur mon piano que sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est indissociable du fait d'être pianiste. Oui.
Prenez, on a le temps de faire un dernier mot. Donc,
faut que je choisisse alors.
Il en reste deux, j'espère que vous allez choisir le bon.
Ah oui. Mathématiques.
Ah voilà, c'est celui-là que j'avais envie.
Oui, j'aimais beaucoup les mathématiques quand j'étais...
Mais il paraît que c'était votre deuxième passion. Il y avait le piano, la musique, le violon.
Vous êtes bien renseigné.
Ouais.
Oui, oui, j'ai toujours été aussi, je pense, on parlait de détermination tout à l'heure, je pense que j'ai toujours voulu faire tout à fond dans ma vie. Et notamment, même quand j'étais à l'école, même si la musique était vraiment ma passion première, j'avais cette détermination aussi d'apprendre le plus possible. Et je ne sais pas pourquoi les mathématiques étaient vraiment une branche qui m'attirait énormément. Et donc, j'avais finalement choisi l'option maths 8 heures par semaine. Donc, j'avais énormément de mathématiques. Et finalement, toutes les personnes dans ma classe étaient des personnes qui se prédisposaient à faire des études d'ingénieur ou de mathématiques. Et j'étais le seul à vouloir faire de la musique. Mais bon, je ne sais pas, j'étais passionné par ce...
Mais imaginons que, je ne sais pas, vos parents n'aient pas décelé, qu'ils ne vous aient pas inscrit dans des cours de musique très jeune et que, voilà, le piano soit resté... Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire des études d'ingénieur ? Ça vous aurait plu ?
Peut-être pas ingénieur, mais sans doute dans les mathématiques, certainement. Ou alors peut-être dans l'astronomie aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné aussi quand j'étais petit. Je pense aussi que dans la musique, il y a énormément de mathématiques, quoi, de toute façon.
Oui, d'ailleurs, vous avez fait un projet scolaire là-dessus, hein, sur la place de la musique, des mathématiques dans la musique.
Notamment. Alors, donc, dans ce cours de préparation aux études supérieures en mathématiques, donc 2 heures par semaine, on a créé finalement tout un projet autour des mathématiques et de la musique. Et donc, un projet qu'on a écrit, donc toute la classe a écrit un projet commun. C'était finalement, en fait, une coïncidence, parce que de toute façon, mon professeur voulait faire ce projet-là cette année-là. Mais heureusement, j'étais dans la classe.
Vous êtes bien tombé, vous êtes tombé la bonne année.
Et même, mais donc du coup, par la suite aussi, donc on parlait d'écriture musicale il n'y a pas si longtemps. Il y a quelque chose de très mathématique, justement, dans l'écriture musicale. Quand on décortique les fugues de Bach, par exemple, on voit que l'écriture est très mathématique, très cérébrale, et que finalement, ce n'est que de la logique. Alors, je ne dis pas qu'il y a, évidemment, qu'il n'y a pas de musique de sur le côté. Évidemment, c'est une musique qui respire aussi par le fait qu'elle soit, voilà, qu'elle touche et qu'elle parle. Mais derrière cela, il y a un côté pas austère, mais très, très rigide, voilà, parce que ce sont des règles, finalement, de contrepoint. Ça m'a toujours attiré. C'est sans doute pour ça que l'écriture musicale m'attire tellement. Oui.
Valère, est-ce que les mathématiques vous sont utiles quand vous êtes assis derrière votre piano aujourd'hui ?
Alors, quand je suis assis derrière mon piano, non, je ne pense pas.
Peut-être quand vous analysez une partition ?
Alors, le côté analytique, oui, certainement. Parce que, comme je dis, donc non seulement quand on va dans les tissus contrapuntiques d'une pièce, mais quand on regarde la pièce dans son ensemble, il faut avoir quelque chose de très analytique pour finalement comprendre la manière dont c'est construit, évidemment aussi pour comprendre tous les enchaînements harmoniques aussi. Mais je pense que derrière cela, il y a également aussi énormément d'intuition, et je pense que j'ai toujours eu une très bonne oreille aussi. Je pense que c'est pour ça que...
C'est pour ça que vous reproduisiez petit des choses que vous entendiez.
Mais non seulement une oreille, peut-être sans doute absolue, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de test, mais aussi, ce que je dirais, ça n'existe pas, mais bon, je dirais une oreille harmonique. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des couleurs particulières derrière chaque accord, et que finalement, chaque accord a besoin d'être transmis avec une couleur particulière. Donc la couleur, ça peut simplement être la balance, la note que l'on va faire ressortir en plus, ou alors peut-être le temps que l'on donne finalement à telle ou telle harmonie lorsque l'on prend une fraction de temps avant d'énoncer, des accords complexes de 5, 6 sons. Alors tout à coup, on a l'impression qu'on redécouvre l'harmonie. Donc je pense que ça, c'est aussi ma manière d'interpréter la pièce. Et ça, je pense que ça n'a rien à voir finalement avec un côté analytique, mais ça a peut-être plus attrait à l'intuition.
Vous dites, Valère Burnon, qu'il est important d'aimer profondément la musique qu'on joue aussi. Sinon, ça se ressent très vite si on joue quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment de...
Oui. Quand je travaille des pièces et que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est magnifique, magnifiquement composé, quelle belle mélodie, quel bel accord. Et voilà, et je pense que ça, c'est... Après cela, il y a juste à finalement communiquer notre passion pour cette pièce.
Comment on fait quand on a une pièce imposée qu'on n'aime pas ? Qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins ?
Oui.
Parce que ça doit arriver dans les concours.
Oui, parce que malheureusement, les pièces imposées en concours sont souvent là pour nous challenger. Et donc finalement, derrière cela, il n'y a pas souvent une volonté musicale, je trouve, intéressante. Ça dépend des fois, mais il y a eu énormément de fois où je suis arrivé en concours, on nous demande de jouer une pièce en demi-finale. Et c'est vraiment une corvée. Donc il faut arriver à finalement essayer de trouver du sens dans une pièce qui n'en a apparemment pas. Alors je ne dis pas que je n'aime pas la musique contemporaine, parce que j'adore, je n'aime pas tout évidemment, mais j'aime beaucoup la musique contemporaine. Je pense que ça a aussi, ça a sa manière d'exprimer des choses vraiment différentes. Et lorsque c'est le cas, c'est génial, mais parfois on doit faire face à des pièces un peu imbuvables, et qui n'ont pas pour volonté d'exprimer quelque chose, mais simplement d'être difficiles. Et ça, j'ai toujours un peu de mal.
C'est de la technique plus que de l'émotion.
Oui, et donc ça, c'est parfois un peu compliqué. Mais malgré cela, j'essaie toujours quand même de raconter quelque chose. J'essaie toujours d'essayer d'avoir un programme en tête, essayer de raconter une histoire qui tient plus ou moins debout. Mais bon, ce n'est pas toujours facile.
Il y a toujours quelque chose à sauver dans une pièce musicale, quelle qu'elle soit ? Un petit truc à sauver ?
Je pense, oui, je pense. Alors évidemment, je pense que ce n'est pas pour rien si on joue toujours les mêmes pièces aussi. Parce que au piano, on a un répertoire qui est gigantesque, mais on tourne toujours autour des mêmes compositeurs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des trésors à aller trouver. Je pense aussi qu'il y a pas mal de compositeurs peu joués ou méconnus qui mériteraient d'être plus connus. Ouais. Mais il y a aussi parfois aussi pas mal de pièces que l'on ne joue pas et que l'on joue, sur lesquelles je mets les doigts et puis je me dis, oui, c'est vrai que c'est, je comprends pourquoi. Mais je pense que quand même chaque musique a le mérite d'être jouée et a le mérite d'être entendue. Donc, oui.
Oui, parce que c'est vrai que la pièce que vous avez jouée en finale, de le troisième concerto de Rachmaninoff, c'est une pièce qui est très jouée dans les concours et qui a été jouée plusieurs fois d'ailleurs hein, lors de la finale. De mon point de vue néophyte, c'est étonnant d'aller chercher quelque chose qui est si joué parce qu'on est plus vite comparé aux autres.
Oui, mais de toute façon, je pense que dans un programme de concours, il faut aussi allier non seulement des choses un peu différentes, mais aussi des pièces où l'on peut justement nous comparer. Alors, le choix s'est porté vraiment sur le concerto de finale parce que voilà, c'est là où finalement on montre le bouquet final de notre concours. Je pense que le troisième concerto de Rachmaninoff est de toute façon quelque chose qui est proche de ce que j'adore. Donc, j'adore ce compositeur, j'adore tout ce que cette musique raconte et ça me transporte. Mais au-delà de cela, je pense que c'est aussi une pièce qui marche bien en général en concours. Donc, il y a quelque chose d'un peu stratégique derrière.
Ouais.
C'est vrai qu'on peut nous comparer, mais je pense que c'est un concerto tellement long, tellement difficile, et ça ne s'arrête jamais, que finalement, quand on arrive au bout, et qu'on arrive justement, comme je disais tout à l'heure, à créer une histoire qui dure longtemps et qui parfois tient sur les 40 à 45 minutes de la pièce, et que l'on arrive finalement à surmonter toutes ces difficultés, alors du coup, ça crée un effet grandiose au niveau du jury et du public. Et donc, je pense que c'est pourquoi, finalement, c'est souvent un choix payant dans les concours. Il n'y a qu'à voir, finalement, tous les concertis entre guillemets gagnants. C'est souvent celui-là qui ressort. Aussi, le deuxième de Prokofiev, qui est réputé pour être extrêmement difficile également. Mais le concert de Prokofiev n'a pas ce côté, je trouve, marathon, comme l'est, par exemple, le troisième de Rachmaninoff. C'est vraiment un marathon, cette pièce, parce que ça ne s'arrête jamais. En fait, finalement, on a un premier mouvement qui est déjà très long, avec une cadence gigantesque qui nous demande énormément d'énergie. On a un second mouvement qui n'est pas vraiment lent. Finalement, on ne s'arrête jamais. Il y a toujours des endroits où on doit donner énormément de puissance, où on doit l'épuiser déjà dans nos réserves. Et puis ensuite, il y a un troisième mouvement qui, lui, pour le coup, est encore long. Je pense que c'est encore une quinzaine de minutes. Et que ce soit dans les premières et dernières parties ou que ce soit dans la partie centrale aussi, qui est censée parfois être plus lente, mais qui n'est pas encore plus lente, qui est très difficile, il y a encore énormément de notes à jouer. Jusqu'à la dernière note, finalement, ça ne s'arrête jamais. Et même dans les deux tutti d'orchestre qui se situent dans le second mouvement, donc lorsque l'orchestre joue tout seul, juste après ces deux passages-là, il y a deux passages monstrueusement compliqués pour le piano. Donc en réalité, pendant ces deux accalmies, on n'a même pas le temps de se reposer parce qu'on pense à ce passage qui va arriver. On se dit, oh là là, ça va arriver, et il y a ce passage-là qui arrive. Mentalement, physiquement, on n'a jamais le temps de se reposer. Et 45 minutes, c'est très long. Et donc, il faut arriver à gérer justement cette...
On sort rincé d'une performance comme ça, on est épuisé.
Oui. Surtout sur une scène très chaude, comme celle du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Alors, c'est une scène très agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que je comprends pourquoi tous les candidats que j'ai vus à travers les années suaient autant sur cette scène. Oui.
Valère Burnon était notre invité aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Valère, je rappelle que vous êtes au Festival Musique 3 à Flaget le 27 juin à 19h. Je pense que c'est complet.
Apparemment, oui.
Apparemment, c'est complet. Mais on peut se rattraper en allant vous voir le 20 juillet au Festival L'été Mauzan à Orpe-le-Grand.
En effet.
Voilà, autre date. Et puis, toutes vos dates de concert sont sur votre site valèreburnon.be. Là, vous mettez à jour tous les endroits où on peut vous voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui?
Mais j'espère beaucoup de concerts. J'espère pouvoir continuer à monter sur scène et continuer à vivre de ma passion, finalement. Oui.
Merci.
Merci à vous.
Les petits papiers se mettent en poche et s'écoutent partout. Vous pouvez les emmener où vous voulez et les écouter à toute heure. Et si ça vous plaît, prenez deux secondes pour nous laisser quelques étoiles et un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'abord et puis ça fera découvrir le podcast à encore plus de monde.